Radio G 101.5 FM.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G, 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver dans cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir à tout le monde.
Dans cette émission, nous recevons Thérèse et Isabelle de l'association Contact Maine-et-Loire. Nous écouterons ensuite une chronique de Céline, notre veilleuse du chemin de traverse. Puis nous passerons en revue l'actualité des droits humains avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. Dans la rubrique Biographie, vous sera proposé le portrait d'un défenseur des droits humains. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu vas nous parler des ventes d'armes françaises et de leur utilisation.
Les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publiées le 11 mars 2019, montrent que nos exportations d'armes ont augmenté de 43% entre 2009-2013 et 2013-2018. La France reste le troisième exportateur au monde. Mais le gouvernement refuse de fournir au Parlement et à la société civile des informations claires et complètes sur ce commerce de l'ombre.
Et la France est particulièrement présente dans le Golfe.
C'est exact. L'Arabie Saoudite est ainsi notre troisième client et nous sommes aussi le deuxième pays au monde à fournir en armes les Émirats Arabes Unis. Suscitant la colère de ses partenaires britanniques et français, l'Allemagne, au contraire, a gelé ses ventes d'armes à l'Arabie depuis l'assassinat en octobre du journaliste Jamal Khashoggi. En continuant à équiper la coalition qui ravage le Yémen depuis 4 ans, la France ne respecte pas le droit international et notamment le traité sur le commerce des armes qu'elle a pourtant ratifié en 2014. Il faut rappeler également la position commune de l'Union européenne arrêtée en 2008 qui engage les pays concernés à interdire toute vente d'armes s'il existe un risque manifeste de violation du droit humanitaire.
Mais comment réagissent les parlementaires français ?
Trois résolutions ont été déposées à l'Assemblée nationale depuis avril 2018, demandant la création d'une commission d'enquête sur les ventes d'armes à l'Arabie et aux Émirats arabes, en vain. Afin d'avoir la garantie que les armes françaises ne puissent être jamais utilisées comme au Yémen, les parlementaires doivent donc jouer leur rôle de contre-pouvoir en exigeant d'obtenir les informations, aujourd'hui encore classées secret défense, qui permettront de débattre des ventes et de leur légalité et en créant une commission parlementaire permanente chargée du contrôle des exportations de matériel militaire.
Mais les relations commerciales entre Paris et Le Caire sont aussi au beau fixe, particulièrement avec les ventes d'armes.
Ces liens font de l'Égypte le premier client de la France dans ce domaine. Officiellement, ces exportations se font dans le cadre du partenariat privilégié entretenu par les deux pays au nom de la lutte antiterroriste. Un prétexte trompeur, car le soutien sans faille apporté par l'Élysée au président égyptien cautionne en réalité une suppression sans précédent des libertés en Égypte, tandis que les exportations d'armes, de technologies de surveillance, d'interception de masse ou encore de contrôle des foules servent forcément davantage les objectifs d'une répression tous azimuts. Parmi les firmes incriminés, on peut citer Nexa Technologies, Safran, Thales, Arcus, autant de contrats juteux qui expliquent le silence des autorités françaises.
Mais puisqu'on parle d'armes, lors des manifestations des Gilets jaunes, on a aussi des inquiétudes en France et dans le monde.
La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, a appelé début mars les autorités françaises à enquêter sur les violences policières commises pendant les manifestations depuis la mi-novembre 2018. Les lanceurs de balles de défense, les LBD, des armes intermédiaires sont notamment dans le viseur des associations de défense des droits humains. Le journaliste indépendant David Dufresne, qui vient de recevoir le grand prix du jury des Assises du journalisme pour son travail d'investigation sur les violences policières, recense à ce jour 232 blessures à la tête, 5 mains arrachées, 22 éborgnées. Le défenseur des droits Jacques Toubon avait réclamé dès janvier la suspension suspension de l'usage des LBD en raison, je cite, de leur dangerosité. Le Conseil de l'Europe lui-même avait appelé en février à suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre afin de mieux respecter les droits de l'homme. Plusieurs actions ont été intentées également par des syndicats et des associations pour suspendre leur utilisation. Mais le Conseil d'État a rejeté leur demande, estimant que le risque de violence lors des manifestations rendait, je cite, nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes. Amnesty International continue toujours de dénoncer à juste titre cet usage disproportionné de la force.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Thérèse et Isabelle de Contact Maine-et-Loire. Bonjour.
Bonsoir. Bonjour. Thérèse et Isabelle.
C'est Bonjour un plaisir pour nous aussi.
Alors, pouvez-vous nous présenter votre association Contact?
Alors, Contact Maine-et-Loire fait partie d'un réseau national d'associations Contact qui travaille dans le but d'améliorer le dialogue entre les parents, les proches et les personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans.
D'accord.
L'objectif, c'est également de lutter contre les discriminations, donc homophobie, lesbophobie, transphobie. Voilà.
Est-ce que vous avez des actions locales marquantes dont vous voulez nous parler ce soir?
Alors, donc du coup, notre travail s'organise en deux parties, trois parties. Une ligne d'écoute dont on va vous parler à la fin, qui est nationale, gratuite, confidentielle. Des groupes d'écoute et de parole. Donc les deux prochains groupes d'écoute et de parole, c'est le 20 avril à 16h et le 15 mai à 19h30.
D'accord.
Donc c'est des lieux où les personnes peuvent se retrouver. Donc des parents, des proches ou des personnes LGBT peuvent venir parler ou écouter. Il n'y a pas d'obligation de parler, c'est un lieu confidentiel. On va accueillir tout ce qui vient. Tout est le bienvenu. On peut comprendre que ce ne soit pas évident tout de suite de comprendre ce qui se passe. Et voilà, on a des gens qui arrivent bouleversés, d'autres en colère. En ce moment, on reçoit beaucoup de personnes trans et leurs familles. C'est un peu ce qui arrive en ce moment.
D'accord.
Plus de personnes trans. Et voilà.
C'est permanent, c'est rue Saint-Exupéry?
Oui, voilà, c'est au 35 rue Saint-Exupéry. Ouais. Voilà.
Thérèse, est-ce que vous pouvez apporter votre témoignage également?
Alors moi, je suis la maman d'un enfant qui est homosexuel, qui vit à l'étranger depuis longtemps. Il nous l'a annoncé quand on est allé le voir à l'étranger, quand il était là-bas. On avait passé une super journée. Nos enfants pensaient qu'on l'avait compris, on n'avait rien compris du tout. Et quand il nous l'a annoncé, ça a été la surprise. Et puis la première parole qui lui est venue après, est-ce que vous me rejetez? Je dis, moi, c'est pas possible. J'ai mis au monde, je peux pas te rejeter, c'est pas possible. Mon mari se sentait très fautif. La première idée qui m'est passée par la tête pour lui dire, ben non, c'est pas de ta faute, c'est pas voulu, c'est pas de ta faute. Et j'ai comparé une main gauche et une main droite. Il y a ceux qui écrivent spontanément de la main gauche et l'autre de la main droite. Et c'est une chose qui n'est pas voulue. Et je pense que l'homosexualité, c'est la même chose.
Très bonne image.
Oui.
Mais autrement, comment les personnes vous contactent et comment ils viennent à l'association, en fait?
Alors il y a plusieurs possibilités. On a un numéro, notre association locale a un numéro. Sinon vous avez le site asso-contact.org. Vous pouvez aussi nous contacter par le Facebook. Voilà, donc on est assez facilement joignable. N'hésitez pas. Il y a une action dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on fait des interventions en milieu scolaire également.
D'accord,
on intervient dans les collèges et dans les lycées pour parler de l'homosexualité et aussi faire de la prévention contre l'homophobie et la biphobie, la transphobie.
Ah oui, d'accord. Oui, mais justement, je voulais vous poser cette question. Est-ce que, effectivement, comme vous organisez pas mal de réunions sur ce sujet, est-ce que vous ressentez actuellement une montée de l'homophobie, comme on le voit dans certains pays? Quelle est votre impression?
Ben, moi, je dirais que, voilà, je suis sur Facebook, je suis pas mal de choses autour de l'homosexualité et je vois depuis le mois de septembre à peu près des têtes de personnes qui ont été agressées et je le vois de plus en plus. Et donc il y a la vague de haine, voilà, je pense, je sais pas comment dire ça autrement,
oui, bien sûr.
Qu'on voit toucher des personnes juives, ce qui s'est passé à Christchurch pour des personnes musulmanes, etc. Mm-hmm. Enfin voilà, ça touche aussi le monde toutes les discriminations en fait sont renforcées par cette vague de haine, y compris les homosexuels et les personnes trans.
Ah, oui.
Voilà. On peut parler des Roms aussi.
Récemment, fameuse histoire de camionnette blanche, c'est quand même.
Bien sûr, c'est effarant, bien évidemment. Ouais.
Mais peut-être que d'autres associations aussi travaillent avec vous, et donc ça permet des liens et peut-être envoyer des familles qui part à une autre association, je ne sais pas.
Oui, alors on travaille avec beaucoup d'autres associations. Sur Angers, il y a le centre LGBT, Quasar, Tonix, qui est plutôt une association festive, mais qui n'hésite pas à nous renvoyer des personnes qui seraient en besoin de s'exprimer. Oui. Le Refuge, qui vient d'être créé, qui est très actif sur le Maine-et-Loire et sur les Pays de la Loire. Le collectif Luciole de l'Université d'Angers. On peut aussi citer la GOM 53 à Laval, on peut aussi citer à Saumur, je suis en train de chercher leur nom.
Tagueda,
voilà, c'est ça. Et puis le truc arc-en-ciel à Anceny qui vient d'être créé. Voilà, une association LGBT aussi à Anceny. Enfin voilà, on est toujours dans un réseau. Oui. Et puis on travaille beaucoup pour la prévention suicide avec un certain nombre d'associations qui sont elles plus concernées sur les questions de suicide, de maltraitance, de violence, etc.
Ah oui, d'accord.
Donc on est actif pour préparer cette journée de lutte contre le suicide tous les ans.
Ah oui. Je sais que l'association Les Lucioles va organiser une projection débat autour du film Rafiki.
C'est très bien.
Bientôt, au
il
cours
est
du mois
superbe
d'avril.
Ce film, je vous le recommande.
Et oui, c'est.
Merci.
C'est un film kényan, je crois. Hein.
Oui, c'est tellement réaliste, j'en sais rien, j'ai pas été au Kenya. Mais bon, ça me paraît.
Donc c'est un excellent film à recommander aux auditeurs.
Film. Ouais.
Mm-hmm. Est-ce que vous serez sur la Pride cette année?
Oui, bien sûr. Alors voilà, les prochains événements pour nous, c'est Tout Angers bouge le 2 juin.
D'accord.
Je me dévoue pour courir 8 km avec le. Oui, quel engagement. Ouais. Ce qu'il ne faut pas faire pour Contact. Et du coup, venez m'encourager. J'espère qu'il y aura d'autres personnes pour courir à côté de moi.
Moi, je cours les 20 km.
Bon courage.
Avec un t-shirt jaune pour toi. Et toi, Isabelle, le t-shirt
orange de Contact, bien sûr.
Ce serait bien, par contre, qu'il y ait aussi des spectateurs avec notre t-shirt pour. Dire que Contact existe pour ceux qu'on a besoin.
Ouais. Oui. Et donc la Pride, bien sûr, le 20 mai. On y sera.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour vous contacter, tu parlais d'une ligne. Est-ce que tu peux la donner?
Oui, alors c'est toi qui l'as, la ligne. Je vais vous la lire. 0805 69 64 64. C'est une ligne gratuite et confidentielle. N'hésitez pas, surtout.
D'accord. Et pour votre mail
Et pour notre...
Pour le site,
alors asso-contact.org, ça c'est notre site. Sur Facebook, vous nous contactez sur Contact Maine-et-Loire. Vous avez notre numéro d'association, vous le retrouvez sur le site, donc voilà, globalement.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo. Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el borolón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vi acuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
De retour dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM, vous venez d'écouter la magnifique voix de notre amie Gabriela Beré Necchea qui interprétait Volver. Mais écoutons maintenant la nouvelle chronique de Céline, notre veilleuse du centre d'hébergement d'urgence d'Angers situé au chemin de Traverse.
Bonsoir Valérie. Ce soir, je te propose une chronique qui s'appelle Petites phrases quotidiennes issues des comptes rendus d'éveil de la semaine passée. Alors pour lundi, Mohamed n'a pas l'air en grande forme, il a froid aux mains et a des douleurs dans les jambes. Un peu plus tard dans la soirée, il fait un malaise, il refuse d'être pris en charge par les pompiers car il est terrifié par l'uniforme. Dimanche, au début, il n'y a qu'une famille sans place, Katrina et ses deux enfants de 16 et 4 ans. Mais finalement, arrive une maman et ses trois enfants et un jeune couple georgien avec les siens. Ils ont 2 et 3 ans. Samedi, à 21h30, une vingtaine de personnes étaient sans solution. Vendredi, quelques hommes s'en vont, comprenant que nous ne pouvons leur trouver de logement. Jeudi, le petit Maurice a le sourire. Ses parents nous expliquent que le garçon dort bien au 115, car il connaît les lieux. C'est comme sa maison. Quand il va chez des jokers, il regarde partout et dort bien plus tard. Mercredi, nous mettons à l'abri la famille H. Madame a une rage de dents, le dernier a la varicelle. Mardi, nous allions partir quand un jeune homme emmène sur le site une jeune femme enceinte qu'il a trouvée désemparée à la gare.
Triste réalité. Allez, c'est maintenant au tour de notre rubrique actualité. Il y a 25 ans, Sophie, survenait un épouvantable génocide au Rwanda.
En effet, en 1994, un génocide perpétré par des extrémistes de l'ethnie Hutu contre la population Tutsi faisait 1 million de morts. 25 ans après, les conditions qui ont rendu ces massacres possibles demeurent encore troubles. Pour tenter de faire la lumière sur cet épisode tragique, le journaliste indépendant David Savernay a retracé les flux financiers qui ont alimenté les génocidaires. Son enquête, que Le Monde publie en 3 parties, montre que les massacres avaient été organisés au moins 2 ans avant leur déclenchement et que par ailleurs, pour acheter leurs armes, les extrémistes Hutus ont profité de la complicité de banques françaises comme la BNP, mais aussi de la cécité d'institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale.
Philippe, c'est l'enfer carcéral à Madagascar.
Les détenus vivent en effet dans des conditions inhumaines. Surpopulation et maladie, mauvaise hygiène, maltraitance sont au cœur des centres de détention malgaches. 200 personnes dans une pièce prévue pour 40. Toutes les heures, des claquements de mains invitent les gens à se retourner afin de dormir plus confortablement. Des personnes, dont des enfants, sont accusées d'infractions mineures telles que le vol de gousses de vanille. Des détenus meurent dans des conditions épouvantables, 52 depuis 2017. Dans la plupart des prisons, il y a davantage de détenus en attente de jugement que de personnes condamnées. Amnesty invite à signer la pétition sur son site pour faire pression auprès du nouveau président afin d'améliorer le sort des victimes de ce système judiciaire inique.
La lumière sur la mort de Marielle Franco n'est toujours pas faite, Sophie.
Oui, la conseillère municipale engagée dans la défense des plus vulnérables, cette militante